Chapitre 13, la corbeille, le diable. Quinze jours s'étaient à peine écoulés et c'était déjà la veille du mariage. Les choses vont vite et bien quand on a dans sa manche un ami comme le colonel Bozzo. Il avait fait sa principale affaire de cette union qui rapprochait sa nièce chérie et le mieux aimé de ses amis, celui qu'il appelait volontiers son fils d'adoption, Monsieur Remy Darx. Tous les délais avaient été abrégés, toutes les dispenses obtenues, à la mairie comme à l'église, et ce bon colonel était venu aujourd'hui à l'hôtel dès le matin échanger des congratulations avec Madame la marquise d'Ornans, tout heureuse d'un résultat si prompt et si complet. Il y avait matinée chez la marquise. La fameuse corbeille était exposée sur une manière d'autel dans le salon d'été, et tout alentour on avait étendu les robes de la mariée, les cachemires et les dentelles. C'était riche et charmant. La marquise avait fait des folies, le colonel s'était piqué d'émulation, et monsieur de Saint-Louis, brochant sur le tout, avait envoyé des cadeaux dignes d'un prince. Les amis de la maison s'extasiaient à l'envi et admiraient tout haut ce gracieux étalage, mais tout bas ils se dédommageaient en distribuant des coups de dents à tout ce qui se pouvait mordre. La marquise n'entendait que les compliments et disait de temps en temps au colonel, qui n'avait cédé à personne l'honneur d'être son cavalier, « Ah, bon ami, comme vous avez mené cela !»« Uranie !» répondait le vieillard, exhumant pour la circonstance ce nom de baptême qui avait été poétique autrefois, « le bonheur de nos deux chers enfants sera ma récompense. »
Oh, « c'est stylé, disait monsieur de Champion, de Saumur, cet artiste, c'est cossu, mais nous avons à Saumur des trousseaux qui valent celui-là. »
La voix authentique de maître Constance Isidore Souef, notaire, rédacteur du contrat, se faisait entendre à l'autre bout du salon. Il savait par cœur les chiffres stipulés et additionnait pour qui voulait l'entendre. Du côté de Madame la Marquise, la maison de la rue de Richelieu, qui vaut annuellement 35 000 francs nets et quitte d'impôts, les 5 fermes de Picardie, qu'on peut évaluer à 1 000 louis en bloc, et l'hôtel de la rue de Varennes, où demeurera le jeune ménage. Côté du colonel Bozzo Corona, la terre de Normandie, qui, au train de poste qui court dans les biens ruraux, vaudra 1 demi-million avant un couple d'années, plus une inscription de rente de 5% au capital de 400 000 francs, du côté de monsieur de Saint-Louis, sa plantation de l'île de France, qu'on ne peut pas évaluer à moins de 5 000 piastres de revenus, la piastre équivalent à peu près à notre écu de 5 francs. Cela nous donne, avec la fortune personnelle de l'époux, un petit total qui dépasse gaillardement 200 000 livres de rente.
« C'est fort joli pour entrer en ménage, » déclara Madame de Trèmes, non sans une légère pointe d'amertume.
« Sans compter les espérances, » dit en passant Monsieur le baron de la Perrière qui venait d'entrer et qui se dirigeait vers le colonel.
« Voilà un amour !» s'écria Marie de Trèmes en contemplation devant une parure de pierre mêlée. Elle ajouta en se penchant à l'oreille d'une autre petite demoiselle, « Mettra-t-elle cela pour sortir le soir en fiacre ?»
L'autre petite demoiselle ricana et répondit, « Tu es une méchante, elle n'aura plus besoin de sortir en fiacre puisque son brigand s'est entré par les fenêtres. » Au-dessus de ces murmures, les paroles élogieuses éclataient dans tous les coins du salon. « Charmant, délicieux, exquis !»
Idéal, trouva même monsieur Ernest, l'échappé du collège, qui avait fait de grands progrès depuis 2 semaines.
Comme elle sera jolie avec cela,
elle qui porte si merveilleusement la toilette.
Monsieur le baron de la Perrière, après avoir présenté son respect à la marquise, et glissa rapidement à l'oreille du colonel,
il y a eu un petit incendie à l'hôtel Meurice, justement dans la chambre de Lord Francis Godwin, et cette nuit, on a profité du moment où le général Conrart soupait au café anglais pour entrer chez lui et forcer son secrétaire. Il n'y a plus qu'un seul exemplaire du mémoire de Remy Darx.
« Baron, vous ne dites pas votre avis sur la corbeille, » répliqua le vieillard en comprimant un mouvement de triomphe.
« Délicieuse, adorable, inouïe, de richesse et de bon goût, » s'écria aussitôt monsieur de la Perrière.
Madame de Trèmes disait au cousin de Saumur, « Moi d'abord je ne crois pas à tous ces bruits-là.
« Des cancans, répondit Monsieur de Champion, des bêtises. Nous avons à Saumur des gens qui passent leur vie à fabriquer des bourdes pareilles. Je ne dis pas qu'il n'y ait absolument rien, car enfin, le lieutenant l'a appelée Fleurette, et ce n'était pas une erreur, puisqu'elle a répondu « Maurice ».«
Quelque hasard, fit Madame de Trême. Évidemment, et puis vous savez, cette chère Valentine a eu une enfance...
« Oui, oui, et une jeunesse.
Voilà, en bonne conscience, on ne peut pas la juger comme on jugerait Mademoiselle de Trême ou Mademoiselle de Champion. Avez-vous remarqué comme Monsieur Remidard s'est changé?
Il a vieilli de 10 ans en 15 jours, tout uniment.
« Oh, le bijou de robe !» s'écria Marie. « Que fera-t-elle de tout cela ?»
Et de loin, on entendit comme un écho persistant la voix de maître Constance Isidore Souef qui répétait la fin de sa chanson
« Un total qui dépasse au la main 200 000 livres de rente !»
L'entretien de Madame de Trême et du cousin de Saumur était devenu confidentiel.
« Moi, chuchotait Monsieur de Champion, je vous répète ce qu'on m'a dit. La Gazette des tribunaux n'en parle pas. Il y a eu scandale au palais. La chose était en vérité plus claire que le jour, et c'était presque un cas de flagrant délit.
« Puisqu'on avait suivi le malfaiteur, repartit Madame de Trême, depuis la maison de la rue de l'Oratoire jusqu'ici. C'est une bien singulière affaire. »
Quelques habitués de l'hôtel s'étaient rapprochés, et un groupe intime se formait.
« Est-ce que cela est bien vrai ?» demanda un des joueurs de whist de la marquise. « Est-ce que l'ordonnance de non-lieu est rendue ?»«
Si bel et bien, répondit Monsieur de Champion, qu'à l'heure présente, le lieutenant Paget se promène en toute liberté dans Paris. »«
C'est impossible, » fit-on à la ronde.
Madame de Trême appela du doigt Monsieur Ernest et ajouta, en manière d'explication,
« Ce petit bonhomme a un frère au parquet, et nous allons avoir des détails. »
Elle s'interrompit pour crier à sa fille, qui s'approchait curieusement avec quelques compagnes,
« Regardez, mademoiselle, admirez, c'est de votre âge. Nous n'avons pas besoin de vous. »
Aussitôt interrogé, M. Ernest prit la pose d'un homme d'importance.
« Vous ne pouviez pas mieux vous adresser, dit-il. C'est mon frère, le substitut, qui a occupé dans cette affaire-là. Une affaire tout bonnement incroyable. M. Remidard, c'est un homme d'un immense talent.
Je crois bien, fit le cœur.
Mais, reprit M. Ernest, personne n'est à l'abri d'avoir un accident, une maladie, un coup de marteau. Enfin, moi, je ne sais pas ce qu'a eu M. Darks, mais il y a eu quelque chose. »
Le cœur resta muet.
« Voici l'histoire, poursuivit le petit jeune homme, heureux d'être écouté. La procédure était plus claire que de l'eau de roche. Les rapports de police ne laissaient pas l'ombre d'un doute. Les divers témoignages concordaient avec un ensemble accablant.
« Il s'exprime bien, ce polisson-là, fit observer le cousin de Saumur. »
Tout fier de cette caresse, M. Ernest redoubla d'éloquence.
« Mesdames, dit-il, ex-professo, vous ne connaissez probablement pas bien les formes de procédé, le mécanisme. Je vais tâcher de me faire comprendre. Le juge d'instruction forme à lui tout seul une sorte de tribunal préalable.
« au fait, dit M. Champion. »
Le juge, continua l'échappé du collège, résume son travail dans une pièce qu'on nomme une ordonnance de soi communiquée. Cette ordonnance saisit le ministère public et le procureur du roi délègue un substitut pour examiner l'instruction. Le substitut fait un rapport dont les conclusions se nomment un réquisitoire.
« Les petits-enfants, ça, cela !» gronda Monsieur de Champion.
« Toutes ces dames, » repartit aigrement Monsieur Ernest, « ne lisent pas la Gazette des tribunaux avec la même assiduité que mademoiselle votre fille. On m'a prié de parler, je parle. » Le réquisitoire de mon frère concluait au renvoi de l'assassin devant la cour d'assises, contrairement à quoi M. Darks a rendu une ordonnance de non-lieu pure et simple. Mon frère en a référé à son chef. Le procureur du roi a lancé aussitôt un appel, mais M. Darks, usant d'un droit extrême, a délivré, je dois le dire, à la stupéfaction générale de tout le parquet, une main levée du mandat de dépôt, et le lieutenant Paget est aussi libre que vous et moi.
« Exact, dit M. le baron de la Perrière en s'approchant, cela ne laisse pas que de paraître un peu singulier à ceux qui connaissent... »
Il fut interrompu par un murmure qui s'élevait dans le salon. Monsieur Remidard s'entrait, donnant le bras à la comtesse Corona. Le petit conciliabule présidé par Madame de Trême se dispersa aussitôt, et ses membres ne furent pas les moins empressés à entourer le nouvel arrivant.
Il n'y avait en vérité rien d'exagéré dans le dire de madame de Trême. En 2 semaines, Remy Darks avait vieilli de 10 ans pour le moins. Sa taille élégante s'était amaigrie, ses traits naguère si beaux creusaient et tourmentaient leurs lignes, des mèches grisonnantes marbraient le noir de ses cheveux, et son front s'inclinait sous je ne sais quel poids qui semblait écraser tout son être. Il regarda d'un œil troublé ce qui venait à sa rencontre et qui, tout en lui faisant 1000 démonstrations affectueuses, l'examinait avec une implacable curiosité. L'expression de sa physionomie était craintive et comme farouche. Bien des regards d'intelligence furent échangés entre les intimes de l'hôtel d'Ornans. Chacun remarqua le regard triste que Remy jetait sur la corbeille et ses accessoires. Francesca dit, comme si elle eût voulu expliquer son morne accablement, « Voilà un homme trop heureux. »« Il y a des personnes, » murmura madame de Trême avec un grand sérieux, « à qui la joie produit cet effet-là. » Mademoiselle Marie pinça le coude à l'autre demoiselle. La marquise arrivait, les deux mains tendues, le colonel embrassa Remy avec effusion. Ce dernier se laissait faire. Il demanda « Où est donc mademoiselle de Villanove ?» Et il n'y eut personne qui ne remarquât l'altération profonde de sa voix. « Elle est à sa toilette, » répondit la marquise. « Ah, nous voulons nous faire belle pour ce grand jour !» Remy passa comme s'il eût voulu éviter la fatigue de l'entretien, et cette conduite bizarre fit renaître les chuchotements. Le colonel toucha le bras de Francesca, qui répondit tout haut à cette question muette. « Je viens de rencontrer Remy à la porte de l'hôtel. Nous n'avons pas encore eu le temps de causer, mais je vais l'emmener dans la serre et lui faire votre commission. »« Quelle commission ?» demanda le juge, qui se retourna lentement. Le colonel lui sourit et répliqua d'un ton caressant « Vous allez le savoir, mon cher enfant, suivez seulement ma petite Fanchette. » La comtesse serra le bras de Remy en souriant et l'entraîna vers la serre. « C'est drôle, » dit tout bas madame de Trême. « Cette noce-là repartit le cousin de Saumur à l'air d'un enterrement. » La comtesse Corona, conduisant toujours Remy, traversa toute la serre et ne s'arrêta qu'à l'extrémité la plus éloignée du salon. C'était l'endroit même où avait eu lieu, 15 jours auparavant, la première entrevue entre le juge et mademoiselle de Villanove. Remy eut ce souvenir, car il porta la main à son front. « Vous souffrez, » lui dit Francesca en s'asseyant auprès de lui. « Il y a tant de misère dans ma propre vie que j'ai bien peu de temps à donner à ce que j'aime le mieux. Je suis peut-être ici la seule à ne point savoir ce qui se passe depuis 15 jours. Je vous croyais au comble du bonheur, Remy, et je m'applaudissais d'avoir été pour quelque chose dans votre joie. Dites-moi pourquoi vous souffrez. » Le juge avait les yeux baissés. Il répondit après un silence, « Je sens qu'il y a sur moi un horrible malheur. » « Mais pourquoi ? » s'écria la comtesse. « Vous avez l'esprit frappé. » « L'esprit, oui, et le cœur surtout. » Il s'arrêta et la comtesse demanda « N'avez-vous plus confiance en moi ?» Le juge releva sur elle son regard découragé. « J'aurais dû fuir, » murmura-t-il. « Enfin, vous me tuez. » Et comme Francesca répétait ce dernier mot avec reproche, il ajouta, dans un élan d'inexprimable angoisse, « Je l'aimais trop. Cet amour n'a rien laissé en moi. Je ne vis que de cet amour et j'en mourrai. C'est mon espoir. Mais puisque vous avez obtenu celle que vous aimez... » Le visage de Remy se contracta pendant qu'il répondait d'une voix sourde, « Je n'ai pas commis de crime et pourtant il y a en moi comme un cuisant remords. Je suis brave et j'ai peur. » « Ce mariage est-il celui d'un honnête homme ? Dites, me regardez-vous comme un honnête homme ?»« Je vous regarde comme le dernier chevalier, » dit la comtesse en lui prenant les deux mains. « Vous êtes la bonté, vous êtes la loyauté même. Je connais assez Valentine pour savoir qu'elle ne vous a rien caché, car elle est digne de vous, Remy, j'en jurerai. Ce mariage la sauve d'elle-même, ce mariage la défend contre le monde. » « Ce mariage... » « Est un marché, » prononça lentement Remy, qui avait des larmes dans la voix. Francesca craignit d'interroger. « Il y a des choses, » reprit Remy, « que vous ne comprendriez pas, et qui, racontées sans préparation, vous sembleraient un symptôme de la folie. Mais je ne suis pas fou, malheureusement. L'arme invisible est suspendue au-dessus de ma tête. Elle m'a blessé déjà, blessé à mort. » Les beaux yeux de Francesca imprimèrent cette inquiétude caractéristique que font naître les paroles d'un malade qui délire. Le juge sourit amèrement et murmura
Vous voyez bien. Et pourtant les effets de cette arme ne se montrent-ils pas assez cruellement? Ce matin je me suis regardé dans la glace, et je ne me suis pas reconnu. Voici 15 jours entiers que je vis avec la fièvre, ou plutôt que je meurs peu à peu, empoisonné par la certitude de mon malheur et par le mépris de moi-même. Je ne sais rien de Valentine, sinon, et très vaguement, les traverses de son enfance, son amour pour ce jeune homme. Ne la défendez pas, madame, je suis bien loin de l'accuser. Une fois, Valentine me dit, en m'apportant des papiers, « Ceci est ma confession, mais elle se ravisa sans doute, car je ne retrouvais point ses papiers à la place où elle les avait mis, et depuis 15 jours, c'est à peine si nous avons échangé quelques paroles. Elle m'évite, et faut-il le dire, je crois que je la fuis. Notre union se fait en dehors de nous, par les soins de ce bon, de cet excellent ami, le colonel Bozzo, votre père. » Francesca ouvrit précipitamment le sac de velours brodé d'acier que toute femme élégante portait en ce temps-là. Elle en retira un large pli en disant « Ah, pour cette fois, c'est vous qui m'y faites penser. J'allais encore oublier la commission de mon bon père. Tout ce qui vient de lui fait du bien. Qui sait si je ne vous apporte pas un remède à votre tristesse ?» Il souriait quand il m'a remis cela pour vous, et il m'a dit « Notre bien-aimé Remy doit lire cet écrit ce matin même. Quand tu le lui auras donné, chérie, tu le laisseras seul. » Elle tendit le pli au juge en ajoutant « Je vous le donne et je vous laisse. » Remy ne fit point effort pour la retenir. Il dit seulement « Je voudrais être prévenu quand mademoiselle de Villanova aura achevé sa toilette. » Il était seul, mais il n'ouvrit point encore le pli qu'on venait de lui remettre. Les murmures du salon arrivaient à peine jusqu'à lui, à travers la serre dont la comtesse avait refermé la porte. Il avait croisé ses deux mains sur ses genoux, ses yeux regardaient le vide, ses lèvres s'agitaient par intervalles, murmurant un nom et deux mots. « Valentine, l'arme invisible ». Au bout de quelques minutes, et machinalement, il déchira l'enveloppe qu'il tenait entre ses mains et dit « C'est elle, c'est l'amour que j'ai pour elle qui est l'arme invisible. » Son regard rencontra le papier et tout son corps eut un frémissement. « C'est elle, dit-il, c'est son écriture, c'est le cahier qu'elle m'avait apporté. Et pourquoi avait-il disparu de mon cabinet, et comment me revient-il maintenant par le colonel Bozzo ?» Un domestique à la livrée d'ornant entra dans la serre. Il portait 3 lettres sur un plateau. « Le valet de chambre de monsieur vient d'apporter ceci, dit-il. Les 3 lettres sont pressées. » Remit les prix et le congédia. Il déposa les 3 lettres auprès de lui sur la caisse où était le yucca, sans même regarder les adresses. L'instant d'après, il était plongé dans la lecture du manuscrit de Valentine. Remy d'Ars lisait avec avidité. Une sorte de magnétisme se dégageait pour lui de cette écriture bien aimée. Chaque ligne retournait le poignard dans sa blessure, mais l'excès de la souffrance a aussi son ivresse, et tout au fond de la coupe terrible, le supplicié, dit-on, trouve une goutte de nectar. Il aimait. Son amour grandissait en dépit de tout, et les motifs qui auraient dû l'éteindre l'attisaient, mais il aimait sans espoir ce fiancé à la veille de ses noces. Quelque chose lui disait que tout était rêve autour de lui et que les préparatifs de ce mariage certain allaient s'évanouir comme un rêve. Le mariage lui-même n'aurait point apaisé ses craintes ni calmé son trouble. Même devant le magistrat qui rapproche légalement les 2 époux, devant le prêtre même qui bénit leur union, il aurait refusé de croire. Une voix criait dans sa conscience « Tout ceci est mensonge, il n'y a de vrai que les coups répétés et implacables de l'armée mystérieuse. » Il s'absorbait dans sa lecture à chaque instant davantage. Il n'entendait plus les bruits qui venaient du salon. Rien n'existait pour lui en dehors de la pensée qui le charmait et l'opprimait. Et ses pages, c'était Valentine elle-même. Il lisait comme on s'enivre. La pâleur de son visage était livide. Il y avait à son front des gouttes de sueur glacées. Il lisait toujours. Il s'arrêta pourtant car ses yeux se voilaient quand il arriva au passage où Valentine dépeignit les premiers mouvements de son cœur. Le nom de Maurice le choqua comme un outrage. La force lui manqua et il laissa aller le manuscrit. « Qu'ai-je fait à Dieu ? » murmura-t-il, « pour qu'il m'ait infligé cette torture. Je l'aime et j'en brise la vie. Jamais elle ne pourra m'aimer, et c'est en vain que je l'entraîne au fond de mon malheur. » Ses yeux tombèrent sur les 3 lettres que le domestique venait d'apporter. Les adresses des 2 premières étaient de 2 plumes amies.
Il ne reconnut point l'écriture de la troisième. Ce fut celle-là qu'il ouvrit d'abord. En déchirant l'enveloppe, sa main tremblait, parce qu'il pensait « Quand je reviendrai après l'avoir tué, que me dira-t-elle ? Et pourtant, je suis condamné à le tuer. » En ce moment, la signature de la lettre éblouit son regard. « C'est de lui !» s'écria-t-il, pendant que tout son sang lui remontait au visage. La lettre disait « Monsieur Darx, je vous dois la vie et la liberté. Je voudrais être votre ami, mais cela ne dépend pas de moi. Vous m'avez fait promettre qu'aussitôt libre, je me tiendrai à votre disposition. Malgré ma répugnance, je ne puis manquer à ma parole. Je demeure rue d'Anjou, Saint-Honoré, numéro 28. Je ne vous chercherai pas, monsieur, mais je n'ai pas le droit de vous éviter. » C'était signé Maurice Pagès. Une flamme s'était allumée dans les prunelles de Remy. « Il n'est même pas jaloux de moi, dit-il avec une colère concentrée. Il n'a pas de haine contre moi. Sa lettre n'essaie pas de me railler, mais c'est le plus outrageant de tous les sarcasmes. J'ai le temps. Demain, à l'heure où Valentine deviendra ma femme, je n'aurai plus de rival. » Sans y songer, il rompit le second cachet. Il lut d'un air distrait. « Mon cher Darx, voici un contretemps fâcheux. Les papiers que vous aviez déposés chez moi ont disparu cette nuit avec d'autres valeurs soustraites dans mon secrétaire. J'ai fait bien entendu ma déclaration, mais j'ai voulu vous aviser pour le cas probable où la police ne mettrait pas la main sur nos brigands. J'en suis pour une trentaine de mille francs, et pourtant je ne mens point en disant que je regrette surtout les pièces auxquelles vous paraissiez tenir. Bien à vous, général Conrart. » Les lèvres de Remy laissèrent échapper, malgré lui, ces mots. Larme invisible. Il froissa le papier et ajouta « L'autre lettre est justement de Godwin. Quelle est donc la puissance de ces hommes ?»« Cher ami, il y a eu un petit incendie chez moi à l'hôtel Meurice et votre dépôt est détruit. Vous ne m'aviez point dit quel était le contenu du paquet et je devais seulement l'adresser à monsieur le duc d'Orléans dans le cas de votre décès. » Néanmoins, sur votre simple déclaration qu'il contenait des valeurs, je suis prêt à vous en rembourser le montant. Yours truly, Francis Godwin. » J'avais deviné, dit Remy, qui replia la lettre avec assez de calme. Il ajouta, reste le colonel, dont la maison peut-être aura été frappée par la foudre. Il reprit le manuscrit de Valentine et en poursuivit plus froidement la lecture. Nous connaissons ce manuscrit, au moins par extrait, jusqu'à la dernière page au milieu de laquelle le coq fut interrompu par le colonel Bozzo. C'était à l'endroit où Valentine, éveillée par un choc violent, retrouvait le fil de ses souvenirs d'enfance. Le brouillard se dissipait pour elle. Elle se revoyait au lendemain d'une catastrophe sanglante, seule, sans protecteur, entourée d'hommes dont le visage était voilé et qui discutaient sur sa vie ou sa mort. La dernière ligne lue par le coq était celle-ci. Le masque de celui qui était le maître tomba. Après ces paroles qui avaient mis le colonel en un si grand émoi, le manuscrit de Valentine n'avait plus qu'une demi-page, et nous le transcrivons. Quand le masque fut tombé, je vis un homme de grand âge, au regard bon et doux, au front respectable, que couronnait une chevelure blanche. Cet homme, ce chef des habits noirs, je l'ai revu, je le connais, vous le connaissez aussi et vous l'aimez. Il est un de mes bienfaiteurs, j'ai essayé de douter, mais l'évidence m'accable, c'est le même, c'est lui. J'hésite, j'ai voulu écrire ici son nom et je n'ai pu, le papier peut trahir une pareille confidence. Mais je vous dois tout, monsieur Darx. Pour vous, je n'aurai aucun secret. Le jour où vous me demanderez ce nom, je m'engage à vous le dire. » C'était le dernier mot. Remy referma le manuscrit et demeura immobile, les yeux cloués au sol. Il était si profondément noyé dans ses réflexions qu'il n'entendit point le bruit de la porte qu'on ouvrait. Il n'entendit pas non plus qu'on marchait dans la serre. Quand il releva enfin les yeux, il vit devant lui le colonel Bozzo Corona, debout et les bras croisés sur sa poitrine. Remy le regarda fixement et dit « C'est vous qui m'avez fait remettre cet écrit, monsieur ?» Le colonel fit un signe de tête affirmatif. « On me l'avait volé, reprit Remy, dans mon cabinet, au palais de justice. Pourquoi me l'a-t-on rendu ?»« Ne l'avez-vous pas deviné ?» murmura le colonel. « Si fait, répliqua Remy, j'ai le pressentiment d'un grand malheur.
Peut-être ne dois-je plus la revoir, car si je la revoyais, elle me dirait le nom qu'elle n'a pas osé écrire. »
La physionomie du vieillard était à peindre. Elle n'exprimait pas l'ombre d'une crainte personnelle, mais on y lisait une grave, une sincère compassion.
« Et le dépôt que je vous ai confié, demanda tout à coup Remy, a-t-on forcé aussi votre secrétaire ou votre chambre à coucher a-t-elle brûlé cette nuit ?»
Malheureux jeune homme, prononça tout bas le colonel, aucun soupçon venant de vous ne peut m'offenser. Je vous aime, je vous plains du plus profond de mon cœur.
Vous êtes magistrat, Remy Darx. Quand vous voudrez, je répondrai aux questions que vous croyez avoir le droit de m'adresser, puisqu'un siècle entier de dévouement et de vertu n'a pu me mettre à l'abri de la calomnie. Mais en ce moment, il s'agit de vous. Il ne s'agit que de vous. Encore une fois, avez-vous deviné ?
J'ai deviné, répondit le juge, dont la voix se raffermit, que le maître des habits noirs joue ici une suprême partie. Malgré son audace, il ne la gagnera pas.
Le colonel se redressa. La plupart des grands comédiens ne sont pas au théâtre. Il y eut quelque chose de véritablement majestueux dans l'immense douleur exprimée par son regard.
« Je suis un exilé, monsieur Darx, dit-il avec lenteur. Vous touchez là, sans le savoir, une cruelle blessure.
J'avais un frère. Est-ce vous qui allez me forcer à déshonorer la mémoire de celui qui n'est plus ?»«
Quoi ? S'écria le juge. Vous prétendriez ?»«
Mon malheur est un fait accompli, interrompit le vieillard avec une étrange autorité.
Le vôtre menace et va vous écraser. »
La dernière fois, avez-vous deviné, monsieur Darx ? Rapprochez les dates. Valentine a 18 ans. Elle en avait 3 quand elle vit cette figure de vieillard qui ressemblait à la mienne. Et le jour où cette lugubre scène frappa son imagination d'enfant, elle était sous l'impression d'une tragédie plus sinistre encore.
Elle n'a pas écrit cela, mais je le sais, elle me l'a dit. Devinez-vous ?
Les yeux de Remy se fermèrent.
« Vous devinez, reprit le vieillard, elle avait assisté à un meurtre.
Quel meurtre ? Votre famille demeurait à Toulouse, sur la place du tribunal. »
Un cri s'étouffa dans la gorge du juge. Le vieillard implacable poursuivit, « Elle avait assisté au meurtre de Mathieu Darx, votre père. »
« Mon père ?» râla Remy.
Et puis, se levant tout droit, il ajouta en un cri déchirant, « Elle est donc ma sœur !»
Il chancela, après avoir prononcé ce mot, qui s'étranglait dans sa gorge et recula jusqu'à la muraille. Et puis il repoussa avec violence le colonel qui s'avançait pour le soutenir. Il traversa la serre en courant comme un insensé. Le salon était vide. Remy put monter sans s'arrêter à l'étage où était la chambre de Valentine. La chambre de Valentine se trouvait déserte aussi. Seulement, le premier regard de Remy rencontra une lettre déposée sur la table. Il s'en empara comme d'une proie. Elle lui était adressée. Il l'ouvrit, mais ses yeux aveuglés n'en pouvaient déchiffrer les caractères. Sa poitrine défaillait, sa tête était en feu. Il s'appuya des deux mains contre la table en balbutiant « L'arme, l'arme invisible, je n'aurai pas le temps, je suis blessé à mort. »
« Jésus !» dit Victoire, la femme de chambre qui sortait du cabinet. « Monsieur Darx, qui se trouve mal, je vais vous préparer un verre d'eau sucrée. »«
Ici !» dit le juge, en l'appelant d'un geste impérieux. « Je ne suis pourtant pas un chien !» gronda la camériste. Mais elle s'approcha et Remy lui donna la lettre de Valentine en ajoutant « Lisez-moi cela sur le champ !»
Elle l'obéit, car la figure bouleversée du juge lui faisait peur.
« On va lire, dit-elle. Dieu merci, j'ai reçu de l'éducation, et les pattes de mouche ne m'embarrassent pas. »
Elle lut. « Voici 15 jours que je vous ai remis ma confession. Non seulement vous n'avez pas répondu, mais encore vous semblez m'éviter. »
« L'éviter, répéta Remy en un gémissement.
« C'est vrai, ça, dit Victoire. Tous les jours, plutôt 2 fois qu'une, mademoiselle demandait, est-ce que monsieur Darx n'est pas venu ?»
Elle continua de lire.
« Ceux qui ont aidé sans doute à précipiter le dénouement ont bien travaillé pendant ces 2 semaines. Nous voici à la veille de ce mariage. Monsieur Darx, nous avons fait ensemble un marché. Pour votre part, vous avez rempli votre engagement. Moi, ce que j'ai promis est au-dessus de mes forces.
La mort seule à mes yeux peut et doit éteindre une dette de cette sorte. Ne pouvant vous payer, je meurs. Adieu. »
Il y a cela, dit le juge qui haletait en arrachant la lettre des mains de Victoire, et sans attendre la réponse, il la saisit par les épaules et cria, comme si quelqu'un d'autre eût pu l'entendre. « Écoutez, ne la laissez pas se tuer. Je suis vaincu, je le sais bien, je demande grâce. Ne frappez plus, ou bien ne frappez que moi. Je me rends, vous êtes les plus forts, je me rends à votre merci. »
« Le voilà fou, » pensa Victoire. Elle ajouta tout haut, « Monsieur Dax, ne faites pas un malheur sur moi. Je vous jure bien que je ne suis pour rien dans tout cela. »
Remy fit un effort suprême pour ressaisir sa pensée et demanda, « Il y a longtemps qu'elle est sortie ?»«
Un quart d'heure.
Où est-elle ?» En prononçant ces derniers mots, il jeta sa bourse sur la table.
« Pour ça, répondit Victoire, je peux vous le dire, puisque je l'ai conduite jusqu'au fiacre. Sans moi, je l'aurais bien défié de descendre l'escalier. Elle ne se tenait pas, quoi, et comme elle parlait tout bas, j'ai été obligé de répéter l'adresse pour le cocher. Rue d'Anjou-Saint-Honoré, numéro 28. »«
Ah !» fit Remy, dont la voix ne tremblait plus. Il s'était redressé. Il ajouta, avec un calme extraordinaire, « Chez lui, chez Maurice Pagès. » Il sortit. Derrière lui, le colonel Bozzo, sortant on ne sait d'où et alerte comme le chat qui guette une souris, descendit l'escalier sans être vu. Sous la porte cochère, il se rencontra avec M. Lecoq qui lui dit en montrant une voiture stationnant de l'autre côté de la chaussée, « Ces messieurs sont là et ils vous attendent. » C'était une pauvre chambre au troisième étage d'une vieille maison de la rue d'Anjou. La fenêtre donnait sur de grands jardins où le soleil d'automne jouait tristement dans les feuillages déjà flétris. Ils étaient là, tous deux, Maurice et Valentine, assis l'un près de l'autre et se tenant par la main. Valentine avait jeté son mantelet sur un meuble. Elle avait la tête nue, ses cheveux dénoués ruisselaient en boucles abondantes. Elle était belle jusqu'au ravissement. Maurice la contemplait en extase. Leurs lèvres se joignirent en un long et silencieux baiser. « Je voudrais prier, » murmura Valentine, « car je sens que je ne suis pas condamnée. Nous avons tant souffert. Dieu nous pardonnera. » Il y avait, à côté d'eux sur la table, un verre plein d'une liqueur brillante et dorée, comme le vin des îles espagnoles. Le verre était seul, aucun flacon ne l'accompagnait. Maurice et Valentine évitaient de regarder ce verre. Valentine s'agenouilla. Maurice resta debout. Il était pâle, mais ferme. Ce qui se passait ici avait été résolu et de longue main. Quand Valentine eut achevé sa courte prière, elle dit « Il faut nous hâter, car on pourrait venir. » Elle jeta ses deux bras autour du cou de Maurice, et il y eut un dernier baiser qui souriait encore, mais qui était navrant comme un adieu. Puis tous les deux à la fois tendirent leurs mains vers la coupe. Ni l'un ni l'autre ne la prit. Un bruit soudain et violent se faisait entendre derrière la porte qu'on essayait d'ouvrir du dehors. La porte résista, elle était fermée à clé, mais elle battait contre le chambranle parce que la serrure usée ne tenait plus. Un choc irrésistible fit sauter le pêne hors de la gâche. Remy Darks, semblable à un spectre, se montra sur le seuil. La course et l'effort qu'il venait de faire avaient mis le comble à son épuisement. Il était si effrayant à voir que Valentine entoura Maurice de ses bras et lui dit « Ne te défends pas, nous lui appartenons. » Remy traversa toute la chambre sans parler. En marchant, il se soutenait aux meubles comme ceux que l'ivresse va terrasser. Arrivé auprès de la table, il demeura un instant immobile. Son regard se détournait de Valentine. Il dit encore à Maurice « Je vous pardonne. » Tâchez d'être heureux. » Puis il saisit le verre et l'avala d'un trait. Et il tomba foudroyé, non point certes par l'effet du poison quel qu'il fût, mais parce qu'il n'avait plus rien à faire ici-bas et qu'en une heure il avait dépensé toute sa vie. C'est à peine si Maurice, aidé par Valentine, eut le temps de le relever pour le transporter sur le lit. Quand ils se retournèrent, la chambre était pleine de gens de police amenés par Lecoq et le colonel Bozzo Corona. Le docteur Samuel, qui les accompagnait aussi, s'empara tout d'abord du verre et le flaira. Son geste et l'expression de sa physionomie criaient le résultat de son examen. « Nous sommes arrivés trop tard, » dit le colonel en un gémissement. « Mon malheureux ami n'est plus. »
Puis, s'adressant au commissaire et montrant du doigt les deux jeunes gens atterrés, « Je suis presque un centenaire, poursuivit-il, mais dans ma vie trop longue, je ne me souviens pas d'avoir subi jamais une si cruelle épreuve. Je me regardais comme le père de cette fille, et la mère d'adoption et ma meilleure amie, mais, dû mon pauvre vieux cœur se briser, j'accomplirai un suprême devoir. Le lieutenant Pagès et Valentine de Villanove et s'aimaient. Remy Darx devait épouser demain Valentine de Villanove et... Elle s'est enfuie de l'hôtel d'Ornans pour rejoindre son amant, et, dans la retraite qu'ils ont choisie, nous trouvons Remy Darx assassiné. Les deux jeunes gens, anéantis, allaient néanmoins protester de leur innocence, lorsqu'un mouvement se fit de l'autre côté du lit, où le docteur Samuel s'empressait autour de la victime. « La vie lutte encore, » dit le docteur. Le colonel réprima un tressaillement de terreur, mais Samuel ajouta « Il a été empoisonné par la belladone, il va mourir fou. » Valentine, appela la voix de l'agonisant, ma sœur. Mademoiselle de Villanove fit un pas vers lui. Ma sœur, répéta-t-il en se dressant sur son séant. Il tendit les bras, mais ses deux mains firent aussitôt un geste de répulsion, et il ajouta, avec une indicible horreur, n'approche pas, je t'aime encore. C'est avec toi qu'ils m'ont tué. Tu étais, oh, tu étais l'arme invisible. » Il retomba. Le colonel se pencha sur lui. On l'entendait qui sanglotait en pressant le mourant sur son cœur. Quand il se releva, il essuya ses yeux et dit « J'ai recueilli le dernier soupir de mon pauvre enfant. » Le docteur Samuel et Lecoq étaient plus pâles que la mort. D'une voix navrée, le colonel ajouta, montrant Valentine et Maurice, « J'avais tout fait pour prévenir la catastrophe. Je voudrais encore les sauver, mais ils appartiennent à la loi. Elle était ma seconde fille. Laissez-moi me retirer avant d'accomplir votre devoir. » Ils étaient tous trois dans la voiture qui reconduisait le colonel Bozzo à son hôtel de la rue Thérèse. Lecoq et Samuel pouvaient passer pour des scélérats endurcis, et pourtant ils regardaient avec une superstitieuse terreur ce vieillard souffreteux et frissonnant dans sa douillette. « Depuis 70 ans, dit le colonel, il en a été ainsi de tous ceux qui se sont attaqués à moi. Vous êtes sauvés, mes bijoux, tressez-moi des couronnes, s'il vous plaît. » « Mais, objecta Lecoq, ils ne sont pas encore condamnés, ils parleront. » « Savoir. Ils ont un tendre ami que je connais bien et qui leur fera parvenir le nécessaire pour éviter la honte de l'échafaud. » Un rire sec le prit, qui n'eut point d'écho. À ce rire, une petite quinte de toux succéda. Le colonel porta son mouchoir à ses lèvres et le mit ensuite auprès de lui. Quand il fut descendu de voiture, Lecoq et Samuel se regardèrent. « Est-ce le diable ? » dit Lecoq. Samuel prit le mouchoir oublié sur le coussin. « Le diable ne meurt pas, » répondit-il, et il montra une tache rougeâtre qui restait à l'endroit où les lèvres du colonel avaient touché le mouchoir. « Qu'est-ce que c'est que cela ? » demanda Lecoq. « C'est la faim, » répliqua le docteur Samuel. Lecoq examina curieusement la toile et dit « Pas possible, je pensais que Dieu l'avait oublié. Tu crois donc à Dieu, toi, à l'amitié ? » « Non, mais ce serait tout de même drôle s'il y avait quelqu'un là-haut. » Fin de L'arme invisible, des habits noirs de Paul Féval.